Le groupe de recherche et d'études sur la radio présente Exposé par Christophe Deleu.
Épisode 1, la radio au bord du gouffre.
Dans le cadre d'Engrenage.
Une journée au bord d'un trou noir. Cette émission de Bernard Trotton, proposée par France Culture en 1998, nous emmène au bord d'un trou noir, apparu dans un village, mystérieux puisque son nom n'est pas cité. Sur place, plusieurs témoins dont on ignore l'identité et la fonction. Les faits semblent graves puisque plusieurs personnes ont été emportées par ce trou noir. Chacun, dans l'émission, offre sa définition du trou noir, comme si on l'approchait sans s'y aventurer. Cette émission représente une tentative réussie de composer avec la spécificité du média radiophonique. On le sait, la radio se construit à partir de sons acousmatiques, pour reprendre l'expression de Pierre Schaeffer, des sons dont l'auditeur ne perçoit pas l'origine. Un équivalent d'un hors-champ cinématographique, mais qui serait l'essence même de la radio. Un trou noir. N'est-ce pas finalement ce qui pourrait le mieux symboliser cet univers créé par la radio, où émetteur et récepteur ne se rencontrent jamais? Bien sûr, comme dans les médias traditionnels, mais où l'émetteur est par définition caché, qu'il le veuille ou non. Une journée au bord d'un trou noir, de Bernard Trotton, laissera l'auditeur avec ses propres interrogations. Qui sont ces interviewés? Où ont-ils été enregistrés? Dans un festival du trou noir? Est-ce un complot radiophonique à la Wells? Rien, dans l'émission ni dans son générique, n'apporte d'informations. Et on ne peut que dire bravo à l'auteur d'avoir préservé le mystère, le flou sur l'espace qu'il a créé. Car elles ne sont pas si nombreuses que cela, ces émissions, qui misent sur l'absence d'image de la radio, sont terribles handicaps. En effet, quand le média télévisuel est apparu, beaucoup ont pensé que la radio n'avait plus aucun avenir et que le public ne pourrait plus se contenter d'écouter quand il pourrait voir aussi. La télévision n'a pas sonné le glas de la radio, mais il faut bien reconnaître que c'est une certaine façon de faire de la radio qui a perduré, une radio de service, comme l'eau, le gaz ou l'électricité, ainsi que le rappelle Hervé Glevarek dans son ouvrage sur les libres antennes en 2005. Dans cette radio majoritaire, prédomine le direct. La radio est donc devenue une radio de support, au service des arts ou des autres médias, comme la télévision. Des émissions de radio parlent de la télévision, mais pas l'inverse. Le documentaire, sous toutes ses variantes, s'est très peu développé à la radio. Documentaire de création, littéraire, musical, documentaire de type ethnographique ou journalistique aussi. Le constat n'a rien d'étonnant, puisqu'à bien y réfléchir, le documentaire vient rappeler à la radio son handicap vis-à-vis de la télévision, l'absence d'image. Car au quotidien, pour pallier cette carence, la radio a construit un univers aux frontières bien nettes et aisément reconnaissables pour l'auditeur. Par un procédé de désacousmatisation, pour reprendre l'expression de Michel Chion, dans son ouvrage « L'art sonore au cinéma » en 2003, la radio a réussi à faire oublier qu'elle fonctionnait sans support visuel à travers la mise en place de dispositifs simples et efficaces qui font office de repère. L'auditeur s'est habitué à entendre une radio ou dispositifs uniformes où un représentant du média reçoit un invité en studio. Ce studio est devenu le lieu de la radio. C'est comme une évidence. L'auditeur ne s'en rend même plus compte, Il s'est habitué à ces ping-pongs verbaux qui alternent avec des pauses musicales. Point de mystère dans cette radio-là où tout est balisé. Certaines stations désacousmatisent à l'extrême, pourrait-on dire, puisqu'elles proposent maintenant à l'auditeur de voir une interview sur leur site internet. Oui, c'est merveilleux, c'est comme si Internet venait pallier ce handicap en rendant l'image à la radio. La radio, avec l'image, est-ce encore de la radio? Non, bien sûr, mais peu importe, l'auditeur s'est connecté pour mettre un visage sur cette voix qu'il entendait depuis des années. Déjà, il note toutes les particularités physiques du journaliste ou de l'animateur, de l'interviewer aussi. Il ne lui reste que peu d'attention pour ce qui est dit au final. Et celui qui était avant tout une voix se transforme en être, en chair et en os. L'auditeur ne peut être que déçu par cette découverte. Aucune incarnation ne saurait véritablement remplacer l'être qu'il s'était imaginé derrière le micro. De la même façon, on ne peut qu'être choqué par ces articles dans la presse sur les gens de radio et qui sont illustrés par leurs photos d'identité. Bien sûr, la curiosité de l'auditeur est apaisée. Il y a un frisson quand on réunit l'image et la voix. Mais l'essence du lien est perdue à jamais dans cette disparition de l'anonymat. La radio du quotidien, c'est donc la radio de studio, du direct, qui produit de la proximité, de la convivialité, et non du mystère, de l'incertitude. La réponse à la question qui parle est donnée par les professionnels des médias, omniprésents à l'antenne. La réponse à la question d'où on parle ne se pose plus, elle est évidente. Enfin, la réponse à la question de quoi on parle est aussi rapidement trouvée. Une émission de radio offre une métaphore séduisante pour décrire la relation entre la radio et l'auditeur. Une émission intitulée Flirt et intégrée à l'oreille en coin dont Thomas Baumgartner a retracé l'histoire en 2007. Dans cette émission Flirt, en 1969, José Arthur interviewe quelqu'un qu'il ne connaît pas, une célébrité située dans un autre studio et qui a modifié sa voix. José Arthur adopte un ton badin et sa voix évoque celle de Guitry dans ses comédies. D'une façon étonnante, José Arthur est ici placé dans une situation d'auditeur type qui entend une voix, ignore qui se cache derrière elle et s'amuse à percer le mystère. Cette émission, Flirt, offre une métaphore parfaite de la situation d'écoute à la radio quand la radio joue avec son pouvoir suprême, l'absence d'image. On connaît ainsi le pouvoir de certaines voix sur l'auditeur, celle des animatrices de la station FIP, radio musicale de Radio France, qui organisait récemment un casting pour recruter de nouvelles voix. Dans cet article de Télérama, qui retrace ses entretiens d'embauche, on peut ainsi lire que l'auditeur a l'impression d'entendre toujours la même voix, une voix féminine, charmeuse, une voix type, sans laquelle le programme ne serait qu'un robinet à musique. Le fétichisme n'est pas loin, sans doute, et la conclusion de l'article ne surprend pas. Vous pouvez donner à la fipette mille et un visages, elle restera la voix du mystère. On se souvient que dans L'homme qui aimait les femmes, de François Truffaut, Charles Denner avait pris l'habitude d'être réveillé par un téléphone à distance, un message qu'une jeune femme enregistrait chaque matin. Un jour, elle avait changé, ce que ne supportait pas Charles Denner. Dans la radio du quotidien, celle qui rassure en balisant tous les espaces réduits au studio, aux voix identifiées. Le documentaire radiophonique va à l'encontre de ces codes. D'une part, il s'appuie sur le terrain et non sur le studio. D'autre part, il se construit à partir du différé que marquent les étapes de l'enregistrement, du montage et du mixage. Et non du direct. Le documentaire est donc conçu selon des rhétoriques marginales dans l'univers radiophonique lui-même. Peu d'auteurs s'y sont intéressés, et pourtant c'est un univers qu'il est temps d'analyser. Contrairement aux émissions réalisées en studio, souvent en direct, le documentaire est composé de sons enregistrés dans une multitude de lieux, montés et mixés dans l'intention de concevoir un récit. Ce dispositif crée ainsi un espace propre à la radio qui propulse l'auditeur dans un imaginaire sonore qu'il convient d'étudier. Entre les récits du réel, proches de l'enregistrement brut d'une situation, et les documentaires fictionnels, il existe de nombreux territoires, des écoles, des pratiques qui varient d'un média à l'autre. Pour définir cette spécificité, on peut relire Souriau et Bazin, le premier militant pour un langage propre à la radio, tandis que le deuxième le rejette. Bazin a surtout écrit sur le cinéma. Dans son article « Vive la radio, abat le 8e art » en 1951, il confie sa déception quant à l'écoute de certains programmes, de fiction notamment. Selon lui, la radio se présente comme un art mécanique qui crée un écran entre les œuvres et nous. Elle commet un péché d'angélisme. Il existe, je cite, « une illusion de la spécificité, de la pureté de l'autonomie, qui est une hérésie ». Bazin conclut « Je crois de plus en plus à la radio et de moins en moins au 8e art ». Seul exemple cité, pour Bazin, la vraie radio, la pure, c'est la lecture d'un texte de Proust par le comédien Pierre Fresnay, enregistré par Pierre Schaeffer. Certes, à partir des écrits de Bazin sur le cinéma, on peut extrapoler et deviner ce que serait cette vraie radio, un outil au service de la représentation du réel et non un art ostentatoire. On sait que Bazin détestait au cinéma les effets de montage, l'accéléré, le ralenti, les surimpressions, les effets insolites, de cadrage, pour ne citer que quelques exemples. C'est donc la pureté de la radio qui serait ici dénoncée à travers ce que Bazin nomme les déformations de la réalité. Souriau écrit lui son article « Univers radiophonique et esthétique comparée » dans les cahiers d'études de radio-télévision numéro 1 en 1954. Il définit la radio comme un art, se suffisant complètement à lui-même. Il repose sur des qualia, qui sont des données sensibles organisées, ayant pour chaque art un caractère absolument dominant. Pour la radio, ce sont les sons, les bruits de langage, de la nature, des choses. C'est, dit Souriau, un art pur. Cette pureté est unique, extraordinaire. Pour Souriau, l'art radiophonique est de tous les arts certainement celui qui est le plus près de l'imagination pure, celui qui capte le mieux l'imaginaire. Grâce à ce que Souriau nomme le raptus radiophonique, l'auditeur quitte l'univers réel pour l'univers radiophonique. À la radio, on crée des mondes pour l'auditeur. On n'est pas loin de ce fameux trou noir qu'on évoquait tout à l'heure. Tardieu, en 1954, reprend d'une certaine manière cette opposition dans sa définition des metteurs en ondes. D'un côté, ceux qui penchent vers le figuratif, c'est-à-dire vers la représentation auditive, aussi fidèle que possible de la réalité objective, et d'autre part, ceux qui s'écartent de la reproduction du monde pour en donner une vision transposée et axée, plutôt, soit sur la réalité intérieure, soit sur une surréalité. Tardieu évoque ce monde imaginaire et aérien. Dans un documentaire d'Arte Radio, Radio Compresse, c'est son titre, le musicien Klaus Basquiez nous raconte comment les micros eux-mêmes participent à ce processus d'élaboration. L'espace devient ici indéterminé, vers une essence de la radio, et l'on retrouve ce constat de Tardieu, les personnages et les objets sont tout entiers contenus dans une vibration sonore qui s'évanouit dans l'air au fur et à mesure qu'elle s'y déroule. Cet espace, pour reprendre Tardieu, c'est une pièce qui est partout et nulle part. Elle est inscrite dans un temps limité, mais répandue dans un espace sans bornes. C'est un sortilège de la technique. En conclusion, on pourrait dire que ce statut de la radio comme média de l'ordinaire produit les effets suivants. Une uniformité des dispositifs, immédiatement intelligible pour l'auditeur. On est donc assez loin des univers de Sourio, où l'auditeur, après écoute, se retrouve dans un état post-radiophonique et retrouve la vie courante. Par conséquent, Bazin l'a emporté sur Sourio, les univers sonores n'existent pratiquement pas, sauf sur quelques radios. Ces dispositifs ne font pas reposer la fidélité de l'auditeur sur la présence d'un animateur ou d'un journaliste, mais ils s'appuient sur la création d'espaces sonores aux frontières incertaines et aux contenus parfois flous. La radioesthétique est aujourd'hui confinée à des territoires restreints et repose sur des pratiques d'écoute minoritaires. Les enjeux sont donc les suivants. Il s'agit de savoir, premièrement, si l'auditoire radiophonique est prêt à délaisser ses repères d'écoute pour entrer dans ces univers sonores vantés par Sourio. Deuxièmement, il s'agit de savoir si la radio, qu'elle soit un art ou non, peut développer ses facultés langagières.
Le groupe de recherche et d'études sur la radio a proposé à la grenouille de venir faire sa dissection. Quel peut être le devenir d'une radio culturelle locale à l'heure de la révolution numérique et de l'accélération de l'hégémonie des grands réseaux de communication? Retrouvez l'exposé de Christophe Deleu du 19 au 24 mai à 10h sur les 3-8. Rendez-vous au débat public sur les enjeux de la radio aujourd'hui, le dimanche 25 mai à 16h à Montevideo. Et après l'événement, ne ratez pas le témoignage critique de Christophe Deleu sur son expérience vécue à Engrenage le samedi 7 juin à 15h sur le 88.8. Pour plus d'informations sur Engrenage, www.grenouille888.org.